je suis métamorphosé en un corbeau noir qui élabore des hypothèses.
Ce n'est pas que ta mère ne t'aimait pas,
dit la voix du garçon nommé Corbeau dans mon dos.
En fait, elle t'aimait très profondément. Tu dois d'abord être sûr de cela. Ce sera ton point de départ.
Mais elle m'a abandonné. Elle a disparu en me laissant seul dans un endroit où je n'aurais pas dû être. J'en ai été terriblement blessé, abîmé à vie. Je le sais bien. Si elle m'avait vraiment aimé, comment aurait-elle pu agir ainsi ?
Oui, ce que tu dis est vrai,
dit le garçon nommé Corbeau.
Tu as été blessé, abîmé, et tu porteras toujours cette blessure. J'en suis désolé pour toi. Mais tu peux encore guérir. Tu es jeune et courageux. Tu es souple aussi, capable de t'adapter. Tu pourrais panser ta blessure, relever la tête et aller de l'avant. Alors qu'elle, elle n'en a plus la possibilité. Elle restera toujours perdue. La question n'est pas de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dans la réalité, c'est toi qui es gagnant. Réfléchis-y.
Je me tais.
Vois-tu, tout cela a déjà eu lieu,
continue le garçon nommé Corbeau.
C'est irrémédiable. Elle n'aurait jamais dû t'abandonner et tu n'aurais jamais dû être abandonné par elle. Mais le passé, c'est comme une assiette brisée. On aura beau tenter d'en recoller les morceaux, on ne pourra jamais lui rendre son aspect d'antan.
Je fais oui de la tête. J'aurai beau faire tous mes efforts, ce ne sera plus jamais comme avant. Il a raison.
Vois-tu,
poursuit le garçon nommé Corbeau, la peur et la colère tenaillaient ta mère.
Comme toi à présent. C'est justement pour cela qu'elle devait t'abandonner à cette époque.
Même si elle m'aimait ?
Oui,
dit-il.
Si elle t'aimait, elle était obligée de t'abandonner. Tu dois comprendre et accepter son attitude. Tu dois comprendre et accepter, comme si elle t'appartenait, la peur et la colère écrasante qu'elle ressentait à l'époque. Non pas pour en hériter et les reproduire. Tu dois lui pardonner. Évidemment, ce n'est pas facile. Mais tu dois le faire. C'est ta seule planche de salut. Il n'y en a pas d'autre.
Plus je réfléchis à tout cela, plus ma confusion augmente. J'ai la tête qui tourne et mal partout comme si on me déchirait. Je demande, « Mademoiselle Saiki, est-elle ma mère ?»
Elle te l'a dit. Non, que ça n'était qu'une hypothèse plausible. En somme, voilà, c'est une hypothèse plausible. C'est tout ce que je peux dire.
Cette hypothèse n'a pas trouvé d'antithèse assez puissante pour être réfutée ?
Exactement.
Je dois donc aller jusqu'au bout de cette hypothèse.
Exactement,
répète le garçon nommé Corbeau d'un ton ferme.
Une hypothèse mérite d'être poursuivie tant que son contraire n'a pas été démontré. Et pour le moment, tu n'as pas le choix. Tu dois la poursuivre, même s'il te faut pour cela te sacrifier toi-même.
Comment ça ? Me sacrifier moi-même ? Ces mots ont une sonorité mystérieuse que je n'arrive pas à saisir. Pas de réponse. Je me retourne, inquiet, mais le garçon nommé Corbeau est toujours là. Il marche derrière moi au même rythme que moi. Je regarde à nouveau droit devant moi et lui demande en marchant. Quelle peur, quelle colère étreignait Mademoiselle Saiki au moment où elle m'a abandonné. Il me questionne en retour.
Quelle peur, quelle colère l'étreignait à ce moment-là selon toi? Tu dois le découvrir par toi-même. Réfléchis bien. Un cerveau, c'est fait pour ça.
Je réfléchis. Je dois comprendre et accepter cela avant qu'il soit trop tard. Mais je ne parviens toujours pas à lire les mots laissés sur le rivage de ma conscience. L'intervalle entre les vagues est trop court. Je suis amoureux de Mademoiselle Saiki, dis-je. mots me sont sortis spontanément de la bouche.
« Je sais »,
dit le garçon nommé Corbeau d'un ton abrupt. « C'est la première fois que je ressens ça, et c'est ce qui a le plus d'importance pour moi en ce moment. »
« Bien sûr, ça va de soi. Bien sûr que cela a un sens. C'est pour ça que tu es venu ici. »
« Mais pour l'instant, je ne comprends pas. Je suis perdu. Tu dis que ma mère m'aimait, qu'elle m'aimait profondément. J'ai envie de te croire. Mais même ainsi, je ne comprends toujours pas pourquoi aimer quelqu'un signifierait-il qu'on lui inflige une atroce blessure. Dans ce cas, à quoi bon aimer quelqu'un profondément? Pourquoi les choses doivent-elles se passer comme ça? » J'attends la réponse. Je n'ouvre plus la bouche pendant un long moment. Mais il n'y a pas de réponse. Je me retourne. Personne ne se trouve derrière moi. Le garçon nommé Corbeau n'est plus là. J'entends ses ailes battre sèchement l'air au-dessus de ma tête.
« Tu es complètement perdu. »
Peu de temps après, deux soldats apparaissent devant moi. Ils portent la tenue de campagne de l'ancienne armée impériale. L'uniforme d'été à manches courtes, avec non pas un casque, mais un képi à visière. Leur visage est enduit d'une sorte de peinture de camouflage noir. Tous deux sont jeunes. L'un est grand, mince, et porte des lunettes rondes cerclées de métal. L'autre est petit, rablais, large d'épaule. Assis l'un à côté de l'autre sur un rocher plat, ils ne sont pas en position de combat. Leurs fusils sont posés à leurs pieds. Le grand mâchonne un brin d'herbe avec ennui. Ils ont une attitude parfaitement détendue, comme si leur présence ici n'avait rien d'anormal. Ils me regardent approcher avec calme, sans le moindre étonnement. Ils se tiennent sur un petit plateau dégagé qui me fait penser à un palier en haut d'un escalier.
« Salut !»
fait le grand d'une voix enjouée.
« Bonjour !»
dit le costaud avec une petite grimace. Je les salue à mon tour. Je devrais sans doute être surpris de les voir. Mais je ne le suis pas spécialement. Je ne suis même pas intrigué. Cette rencontre ne me paraît pas improbable.
« Nous t'attendions !»
dit le grand. « Moi ?»«
Nous ne voyons pas passer grand monde par ici. » « On t'attend depuis un moment, »
dit le costaud.
« Le temps n'est pas un facteur très important, » ajoute le grand. « Mais tu as mis plus de temps que prévu. »
« Vous êtes les deux soldats qui ont disparu dans cette forêt pendant l'entraînement, il y a très, très longtemps, n'est-ce pas ?» Le grand fait oui de la tête.
« C'est exact. »
« Ils vous ont cherché partout, » dis-je.
« Ça, nous le savons, »
dit le costaud.
« Nous savions que tout le monde nous recherchait. Nous n'ignorons rien de ce qui se passe dans cette forêt. Mais ils auront beau chercher, ils ne nous trouveront pas. » « Pour être exact, nous ne nous sommes pas perdus, »
dit le grand d'une voix calme.
« Nous nous sommes plutôt enfuis délibérément. » « Oui, nous avons déserté. Ou, pour être plus exact, nous avons trouvé ce lieu par hasard, « et y sommes restés, »
ajoute le costaud.
« Nous ne nous sommes pas perdus. Ne trouve pas cet endroit qui veut, »
dit le grand.
« Mais nous l'avons trouvé. Et toi aussi. C'était une vraie chance, pour nous deux en tout cas. Sinon, on aurait été mobilisés et on nous aurait envoyés nous battre à l'étranger, »
dit le costaud.
« Nous aurions été contraints de tuer et nous aurions été tués. » Nous n'en avions aucune envie. Moi, je suis paysan. Et lui, il venait de sortir de l'université. Aucun de nous deux ne voulait tuer qui que ce soit et encore moins se faire tuer. Ce qui est bien naturel. Et toi, tu as envie de tuer quelqu'un ou d'être tué?
Demande le grand. Je secoue la tête. Je n'ai envie de tuer personne. Je ne veux pas me faire tuer non plus.
« C'est le cas de tout le monde, » dit le grand. « Ou presque. Mais si tu déclares « je n'ai pas envie d'aller à la guerre », l'État ne va pas te répondre bien gentiment « ah bon, Tu n'as pas envie de faire la guerre? D'accord, tu n'es pas obligé d'y aller alors. Ce n'était pas possible de déserter. Dans tout le Japon, il n'y avait pas un endroit où l'on aurait pu fuir. Où qu'on aille, on nous aurait retrouvés tout de suite. Après tout, c'est un petit archipel. Du coup, nous sommes restés ici.
Il secoue la tête puis reprend.
Et on n'a pas bougé depuis. Ça fait très, très longtemps, comme tu dis si bien. Mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, le temps n'est pas un facteur important ici. Il n'y a presque pas de différence entre « maintenant » et « il y a très, très longtemps ».
« Tu veux dire pas de différence du tout ?»
intervient le costaud. Et il accompagne sa phrase d'un geste vif de la main, comme pour écarter quelque chose. « Vous saviez que j'allais venir ?»«
Oui !»
dit le costaud.
« Nous montons la garde ici, alors nous savons bien qui va arriver. » Nous faisons quasiment partie de la forêt,
dit l'autre.
L'entrée est ici,
dit le costaud.
Et nous montons tous les deux la garde.
Pour le moment, l'entrée est encore ouverte,
dit le grand.
Mais elle ne va pas tarder à se refermer. Aussi, si tu veux entrer, c'est maintenant ou jamais. Tu peux me croire, ce n'est pas souvent que cet endroit est ouvert.
Si tu veux entrer, nous te guiderons. Le chemin est dur à suivre. Tu auras besoin de nous,
dit le costaud.
Si tu n'entres pas, fais demi-tour ici,
dit le grand.
Le sentier n'est pas trop difficile à retrouver. Ne t'inquiète pas, tu pourras retourner d'où tu es venu. Et tu reprendras ta vie comme avant. À toi de décider. Entrer ou ne pas entrer. Personne ne t'oblige à rien. Mais une fois à l'intérieur, il sera difficile de reculer.
Emmenez-moi, dis-je sans hésiter.
Vraiment ?
Dit le costaud. J'ai des gens à voir là-dedans, je crois. Les deux soldats se lèvent lentement, sans mot dire, ramassent leurs fusils. Ils échangent un bref regard, puis se mettent à marcher devant moi. Le grand se retourne pour m'adresser la parole.
« Peut-être trouves-tu étrange que nous nous promenions avec des fusils aussi lourds qui ne nous servent à rien. D'ailleurs, ils ne sont même pas chargés. »«
C'est un symbole, »
dit le costaud sans se retourner.
« Nos fusils symbolisent ce qu'on a laissé derrière nous. »« C'est important, les symboles, »
dit le grand.
« Il se trouve que, par hasard, nous portons un uniforme de soldat et un fusil, comme tu vois. » C'est pour cela que nous acceptons le rôle de sentinelle. Un rôle. C'est à cela que mènent les symboles.
As-tu quelque chose de ce genre sur toi? Quelque chose qui pourrait servir de symbole?
Demande le costaud. Je secoue la tête. Non, je n'ai rien. Je n'ai que mes souvenirs.
Fait
le costaud.
Des souvenirs?
Cela ne nous dérange pas, naturellement.
Dit le grand.
Les souvenirs peuvent tout à fait servir de symbole. Toutefois, j'ignore quelle est la durée de la mémoire et si elle est réellement fiable.
Je préférerais un objet tangible,
dit le costaud.
C'est plus facile à comprendre.
Un fusil automatique, par exemple,
explique le grand.
À propos, comment t'appelles-tu ?
Kafka Tamura.
Kafka Tamura,
répète-t-il en chœur.
« Drôle de nom !»
dit le grand.
« Ça, c'est sûr !»
renchérit le costaud. Ensuite, nous avançons en silence.